Section quatrième. Entrée dans la mort mystique. Cette pauvre âme, après avoir tout perdu, doit enfin se perdre elle-même, par un entier désespoir de tout, ou plutôt, doit mourir accablée de fatigue horrible. L'oraison de ce degré est fort pénible, parce que l'âme, ne pouvant plus se servir de ses puissances dont l'usage lui est entièrement ôté, et, Dieu ayant retiré un certain calme doux et profond qui la soutenait, elle reste comme ces pauvres enfants qui vont courant, çà et là, pour trouver de la nourriture, sans trouver personne qui leur en donne. C'est ce qui fait qu'ici, leur raison paraît entièrement perdue, comme en ceux qui ne l'ont jamais faite. Mais avec cette différence que l'on sent la peine de sa perte, parce que l'on a connu sa valeur par sa possession, et que les autres n'en ont pas de peine, parce qu'ils n'en connaissent pas le prix. Elle ne peut plus trouver de soutien dans les créatures, et si elle s'y sent courbée et portée, c'est par impétuosité, sans cependant y trouver rien qui la satisfasse. Ce n'est pas que souvent elle ne s'égare et qu'elle ne voulût se jeter à corps perdu dans les choses qu'elle a goûtées autrefois. Mais, hélas, elle y trouve tant d'amertume qu'elle s'en retire au plus vite, et il ne lui reste que la douleur de son infidélité. L'imagination est entièrement détraquée et ne laisse presque point de repos. Les trois puissances de l'âme, l'entendement, la mémoire et la volonté perdent peu à peu leur vie, en sorte que sur la fin, elles n'en ont point du tout, ce qui est très pénible à l'âme et particulièrement à la volonté, qui avait appris de goûter un je ne sais quoi tranquille et doux, qui rassurait les autres puissances dans leur inaction et dans leur mort et impuissance. Ce je ne sais quoi qui soutient dans le fond est ce qui coûte le plus à perdre, et que l'âme tâche avec plus de force à retenir. Car d'autant plus est-il délicat, d'autant plus lui paraît-il divin et nécessaire. Et elle consentirait aisément à ne se servir jamais des deux autres puissances, ni même de la volonté, d'une manière distincte et aperçue, pourvu que ce je ne sais quoi qui est son favori lui demeure. Car le moyen qu'une âme puisse subsister sans moyen, et sans ce moyen si pur qu'il semble que c'est la fin à laquelle tout aboutit et la récompense de tous les travaux. Car que veut une âme dans tous ses travaux? Que d'avoir ce témoignage dans le fond qu'elle est un enfant de Dieu? Et toute la spiritualité se termine à cette expérience. Cependant, il ne faut pas perdre, comme le reste, et ensuite entrer dans la funeste expérience de toutes les misères dont on est plein. Et c'est ce qui opère véritablement la mort de l'âme. Car, quelque misère que puisse avoir l'âme, si ce je ne sais quoi qui fait la vie de l'âme ne se perdait, elle ne mourrait pas. Et aussi, si ce je ne sais quoi se perdait, sans qu'elle sentît ses misères, elle se soutiendrait et ne mourrait jamais. Elle sait et comprend facilement qu'il faut passer de longues et effroyables ténèbres, il faut perdre tout goût, tout sentiment, quelque délicat qu'il soit. C'est pourquoi elle porte les privations des soutiens et des goûts avec force. Surtout les personnes éclairées et savantes, mais de perdre un certain soutien, presque imperceptible, et tomber de faiblesse, tomber dans la misère et la boue, c'est à quoi l'on ne peut consentir, parce que l'on n'y doit jamais consentir. C'est où la raison se perd, c'est où les frayeurs et les transes mortelles s'emparent du cœur, qui semble n'avoir de vie que pour sentir sa mort. C'est donc la perte de cet imperceptible moyen et l'expérience de ces misères qui causent la mort. L'âme doit être bien fidèle dans un temps si nu et si rude pour ne point laisser ses sens se courber vers les créatures volontairement, cherchant du soulagement et du divertissement volontaire. Je dis volontaire, car pour des mortifications et attentions réfléchies sur soi-même, ces âmes en sont incapables. Et plus elles ont été mortifiées, ce qui paraissait mort aux non-expérimentés, plus ont-elles le penchant vers le contraire, sans s'en apercevoir, comme un fou qui va errant et vagabond partout. Et si vous vouliez les retenir trop rigoureusement, outre que cela serait inutile, c'est que cette application au dehors retarderait et empêcherait la mort. Que faut-il faire? C'est d'observer, de ne rien faire, qui soulage les sens d'une manière criminelle et imparfaite, de les souffrir et de les recréer quelquefois en choses innocentes en charité. Car comme ils ne sont pas capables de ce qui s'opère au-dedans, ce serait ruiner la santé et même les forces de l'esprit, et peut-être l'intérieur, que de les vouloir gêner. Il faut mépriser cela comme des enfances et n'être pas trop rigoureux en refusant les choses permises. Ce que je dis est pour ce degré, car si l'âme en voulait user ainsi dans le temps de la force et vigueur de la grâce, elle ferait mal. Et même notre Seigneur, tout plein de bonté, fait bien voir lui-même la conduite que l'on doit tenir, car dans les commencements, il presse de si près les pauvres sens qu'il ne leur donne aucune liberté. C'est assez qu'il veuille quelque chose pour les en arracher. Un regard, une parole, la moindre satisfaction ferait souffrir infiniment. Et Dieu fait cela pour tirer les sens de leur opérer imparfait, pour les faire entrer au-dedans et en les sevrant au-dehors. Il les lie au-dedans d'une manière si douce qu'il ne leur coûte presque rien de se priver de tout. Ils y trouvent même plus de douceur que dans la possession de toutes choses. Mais quand ils sont suffisamment purifiés et introvertis, Dieu qui veut tirer l'âme d'elle-même par un mouvement tout contraire, permet que les sens s'extrovertissent et se répandent vers le dehors. Ce qui semble à l'âme une grande impureté. Cependant, la chose est alors de saison, et faire autrement, c'est se purifier autrement que Dieu ne veut et se salir. Cela n'empêche pas qu'il ne se fasse des fautes dans cette extroversion des sens, mais la confusion que l'âme en reçoit et la fidélité à en faire usage fait le fumier où elle pourrit plus vite. Tout coopère en bien à ceux qui aiment. C'est aussi ici où l'on perd entièrement l'estime des créatures. Elles vous regardent avec mépris et disent « N'est-ce pas là celle que nous admirions autrefois ? Comment est-elle devenue ainsi défigurée et laide ?»« Hélas, leur dit-elle, ne me regardez pas par ma couleur noire, car c'est le soleil qui m'a ainsi décoloré. » C'est ici qu'elle entre tout d'un coup dans le troisième degré, qui est d'ensevelissement et de pourriture.